L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Le féminisme, on en a à toutes les sauces depuis quelques années. On en a dans les pubs, on en a sur Instagram, on en a sur Facebook, on en a sur LinkedIn. Et c'est plutôt une excellente chose parce que ça fait bouger les lignes, évidemment. Chaque fois qu'il y a un grand mouvement de société, il y a des personnes qui essayent d'en profiter. C'est logique. Et le féminisme n'échappe évidemment pas à la règle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Elvire Duvel-Charles, qui est une féministe qui a créé le compte Clit Révolution, entre autres sur Instagram, qui était fémène, donc on va parler de ce phénomène. Et avec Elvire, on va parler de la monétisation du féminisme. On va parler de toutes les évolutions, c'est-à-dire comment les marques utilisent le féminisme, mais aussi comment les comptes Instagram féministes doivent ou peuvent se monétiser, est-ce qu'elles doivent le faire. On va parler des femmes qui parfois utilisent le féminisme, comme Marine Le Pen par exemple, pour se promouvoir. On va parler de tous les débats autour de ces sujets du féminisme et de la monétisation. On va parler aussi des différentes formes de féminisme, parce que toutes les femmes ne se reconnaissent pas et que parfois il y a aussi des dérives, et on va en parler également. C'est une conversation qui est hyper intéressante, qui est sincère, honnête, dans le discours, dans les mots, et j'espère que vous l'apprécierez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, Volant, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Elvire.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va et toi?
Ben ça va, pas trop mal. Une question à te poser. Tu es devenue fémène il y a quelques années. Et je pense que ça a généré plein d'imaginaires, les fémènes. Parce que majoritairement, les gens ne l'étaient pas. Tu peux nous rappeler ce que c'est et comment on devient fémène?
Oui, alors fémène, c'est un groupe féministe qui est venu d'Ukraine, puisque moi, quand je les ai rejoints en 2012, c'était vraiment... Ça faisait une semaine qu'elles venaient d'arriver à Paris. Et c'est un groupe féministe qui a la particularité de mener des actions topless, seins nus, avec une couronne de fleurs et des slogans inscrits sur leur torse. Et c'est marrant, tous ces imaginaires, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je suis plus fémène depuis... Ça fait six ans que j'ai quitté fémène. Mais... Aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore un grand mystère autour de fémène qui règne. Et c'est intéressant parce que moi, ce que j'admire énormément chez les activistes fémènes et chez celles qui ont construit le mouvement, c'est à quel point elles étaient peu nombreuses, mais elles ont réussi à faire beaucoup de bruit. Et ça, c'est, enfin, pour moi, fémène, ça a été vraiment une école d'activisme en ça, c'est-à-dire apprendre à... faire bouger les choses ou à mettre de la lumière sur un sujet avec les moyens du bord qui sont en fait ton corps et ton courage.
Et tu dirais violence ou douceur? Souvent, les gens ont associé ça à de la violence parce que c'était des actions physiques. Et pourtant, j'ai l'impression que toi, tu l'associes plutôt à la douceur.
Alors, je ne l'associe pas à la douceur parce que je l'associe à une position agressive, mais qui n'est pas violente. C'est-à-dire les femmes... On a toujours eu à cœur de dire que, enfin, de rester dans des actions non violentes. Ça fait partie des choses que tu apprends d'ailleurs quand tu deviens fémène. Tu apprends à pas répondre aux coups, même si tu t'en prends. Et c'est une posture qui est une posture pacifiste. Après, derrière, évidemment, l'idée c'est de se dire, puisque on est seins nus, moi ce qui m'intéressait chez fémène, c'était aussi la transformation de la nudité, c'est-à-dire de passer d'une nudité qui est là pour séduire à une nudité qui est une arme. Et le fait d'enlever ton t-shirt, c'est enfiler ton armure. Et ça, je trouvais ça hyper fort, parce que en tant qu'activiste, en tout cas, et en tant que personne qui, du coup, enlevait son t-shirt, ça m'a permis d'avoir un autre rapport à mon corps, qui était un rapport où je le sentais plus vulnérable comme il était avant, mais fort. Et c'est hyper drôle, tu vois, quand t'es féminine, de voir quand t'enlèves ton t-shirt, au moment où t'enlèves ton t-shirt, de voir à quel point ça peut désarçonner certaines personnes. Les flics, ils savent plus où se mettre, enfin, ils savent pas où mettre leurs mains. En fait, il y a toujours un moment comme ça, un temps suspendu assez intéressant avant qu'il y ait une réaction. Il y a toujours un moment un peu de sidération, je pense. Et ça, c'est hyper intéressant de voir à quel point des personnes qui cherchent sans cesse à nous dénuder, que ça soit symboliquement ou physiquement, quand tu te dénudes par toi-même dans un endroit dans lequel ils s'attendaient pas à ce que tu le fasses, ça les immobilise.
Et c'est d'autant plus drôle, je te parlais juste avant de avant qu'on enregistre d'un bouquin que je suis en train de lire là sur le genre, qui a été écrit par un primatologue, et lui, ce qu'il dit, c'est que l'espèce humaine, c'est la seule espèce à avoir sexualisé les seins. En fait, chez aucun primate, c'est sexualisé. C'est étonnant parce qu'en fait, souvent on revient à ça. Tu vois, il y a beaucoup de constructions qu'on a. Et de toute façon, je ferai un épisode dessus. Donc, je ne sais pas quand ça sera diffusé, avant, après, celui-là ou quoi, mais ça sera diffusé. En fait, beaucoup de croyances sur le fonctionnement entre hommes et femmes vient des primatologues. Tu vois, typiquement le mâle alpha, etc. Ça vient de l'étude des orang-outans. Enfin, c'est ce qu'il explique dans le bouquin. Et au final, les orang-outans, ils sont hyper éloignés des hommes. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de mâle alpha chez les primates qui nous ressemblent le plus. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, il y a plein de croyances comme ça. Et typiquement, bah, sur les seins, c'est quand même très chelou qu'on ait réussi à le sexualiser. Alors qu'en fait...
Ouais, mais c'est marrant. Tu sais que la France, alors qu'on a quand même fait des actions féminines, je sais pas, en Turquie, en Italie, en Espagne, dans plein d'endroits différents du monde, la France est le seul pays à quasiment systématiquement avoir poursuivi des activistes féminines pour exhibition sexuelle.
Alors qu'on a les seins nus en France, ce qui est assez particulier quand même.
Exactement, on a le topless à la plage, mais ça reste quelque chose où t'as pas le droit de te mettre topless, je sais pas, dans un parc. Moi, cet été, là, j'ai vu plein de gars faire leur jogging topless. Et je vois, il y a quand même un truc où tu te dis, autant je comprends que des personnes disent, en fait, la ville, c'est pas un endroit pour se mettre torse nu, mais c'est pas exactement ce qu'on dit. On dit, les femmes ne peuvent pas être torse nu et les hommes peuvent être torse nu. Et les poitrines de femmes n'ont pas à être exposées, elles doivent être cachées. Avant, c'était même carrément, fallait mettre un soutien-gorge. Là, j'ai vu que depuis le confinement, il y a de moins en moins de meufs qui mettent des soutiens-gorge et qu'elles commencent à s'habituer progressivement à avoir un corps.
J'allais dire, je vais avoir une parole de pervers, mais je m'en suis rendu compte aussi.
Mais oui, non, mais c'est vrai. Et c'est marrant parce que... Parce que c'est avant tout nourricier, c'est-à-dire en fait ce qui fait la forme de nos poitrines, c'est avant tout qu'on a besoin de pouvoir allaiter nos progénitures si on en a.
Alors justement, on va glisser tout doucement vers les réseaux sociaux, puisqu'on parle des seins, parce qu'il y a aussi ce truc qui est très très étrange de ne pas pouvoir montrer les tétons sur Instagram.
Tétons de femmes.
Les tétons de femmes, voilà, c'est ça. Je comprends la logique, tu vois, de se dire ça pourrait laisser la porte ouverte à des contenus pornographiques, etc. etc. Et je l'entends, évidemment, mais c'est quand même chelou que... Enfin, c'est hyper bizarre, quoi.
Oui, c'est hyper bizarre, surtout que les tétons d'hommes sont autorisés.
Ouais.
Et il y avait une fille qui m'avait fait beaucoup marrer parce qu'à un moment, elle avait lancé un truc où en gros, elle mettait des photos de femmes et elle leur rajoutait des tétons d'hommes pour censurer en disant c'est des tétons. Et ça marchait.
Mais comment ça peut marcher? C'est ça qui est chelou. Comment ils arrivent à reconnaître
un téton? Non, mais en fait, c'est ça. Le truc qui est débile avec la censure, c'est que c'est difficile, en fait, de mettre une frontière. C'est-à-dire, tu disais, ça pourrait ouvrir à du contenu pornographique, mais t'as des contenus qui sont hyper pornographiques, alors qu'on voit ni seins, ni sexe, ni fesses. A contrario, tu peux avoir des contenus où il y a une nudité complète et où...
C'est hyper artistique.
C'est très artistique et c'est pas du tout pornographique. Donc, en fait, c'est très subjectif. L'érotisme, c'est hyper subjectif et ça peut pas être jugé par des critères comme on voit des tétons ou on voit pas de tétons où on voit des fesses en entier ou on voit pas de fesses en entier, tout dépend de la manière dont tu montres.
Mais je suis hyper curieux de comprendre comment l'algorithme il arrive à reconnaître un téton d'homme, un téton de femme. J'arrive pas à saisir.
Mais je pense qu'en fait, c'est des robots, tu vois, comme algos, qui arrivent à voir, je sais pas du tout comment. Peut-être c'est le fait qu'il y a un montage, parce que il arrive à voir aussi quand tu censures,
ouais.
C'est-à-dire quand tu floutes le téton.
Ouais.
Donc c'est un peu mystérieux, mais nous c'est vrai que ce qu'on a constaté, on est plusieurs à avoir fait le constat du fait que au final les règles de la censure d'Instagram sont discriminantes, c'est-à-dire qu'en fait les corps qui vont se retrouver censurés sont essentiellement les corps gros, les corps noirs, les corps de femmes, les corps des minorisés, des minorités de genre, des trans, des homos. Et ça, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs études qui tendent à montrer que c'est assez discriminant, sauf que rien n'est clair, puisqu'en fait, Instagram n'est pas du tout clair sur ses règles de modération. Ce qui a enclenché l'année dernière le fait qu'on poursuive en justice Instagram et qu'on les assigne pour les contraindre à être plus clairs et transparents sur leur modalité de modération.
Parce que là, effectivement, on parle de seins nus, etc. Mais en fait, c'est pas que le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de comptes féministes qui se sont fait bloquer. J'ai essayé d'en aider quelques-uns de comptes féministes. La liste est longue, mais de comptes féministes qui se sont fait bloquer par Instagram, pas tant parce qu'ils avaient des contenus où il y avait de la nudité, mais ça peut être, je pense à Jouissance Club, on en a parlé tout à l'heure, où c'était des dessins, donc il y a pas de voilà. Je pense à la prédiction, il y avait des photos, mais c'était pas tant les photos que
c'était le texte. Et puis au-delà de ça, il y a aussi énormément de comptes qui ont sauté parce qu'ils ont publié par exemple comment faire pour que les hommes cessent de violer, qui a été considéré comme un appel à la haine, alors que il est évident que quand tu dis déjà comment faire pour que les hommes cessent de violer, ça veut pas dire que tu dis que tous les hommes violent. De la même manière que quand tu dis fumer tue, ça veut pas dire que toutes les personnes qui fument vont mourir de ça. Mais c'était une question qui a été posée une première fois sur Twitter par une personne qui s'est fait supprimer son compte et qui a vu un élan de solidarité à elle, où du coup tout un tas de personnes ont reposté cette phrase-là, qui se faisait systématiquement censurer et les comptes pouvaient aller jusqu'à se faire fermer.
Étrange. On va parler de la monétisation.
Ouais.
Il y a plein de... d'endroits où j'ai envie d'aller sur la monétisation du féminisme. Peut-être que le premier et peut-être le plus logique pour moi, en tout cas, c'est la manière dont les marques se sont positionnées sur le féminisme de manière parfois à droite, souvent maladroite. Et je pense à cette marque de sous-vêtements en particulier qui n'est pas du tout féministe et qui d'un coup s'est décrétée féministe. Y a plein de trucs comme ça qu'on a vu. Qu'est-ce que toi tu as observé, parce que tu es aux premières loges en plus, sur la manière dont les marques ont utilisé cet argument pour faire un peu du social washing, quoi, finalement, parce qu'ils n'ont pas vraiment changé les règles en interne.
En fait, je pense qu'il y a eu un glissement des stratégies marketing, c'est-à-dire qu'avant, là où les marques mettaient beaucoup de budget dans des campagnes publicitaires classiques, de billboards, à la télé, etc., j'ai l'impression que maintenant, elles se sont rendues compte que ce qui permettait de vendre pour pas trop cher et en fait faire énormément de chiffre d'affaires, c'était les réseaux sociaux et le web marketing. Donc passer par des campagnes d'influence. Ce qui est encore plus vrai pour les marques qui se rapprochent de près ou de loin de la sexualité ou de la santé sexuelle, de choses comme ça, c'est-à-dire une marque de sextoy, par exemple. Alors déjà, je pense qu'elle n'a pas le droit de faire de publicité à la télé.
C'est clair.
Elle n'a pas le droit de faire de publicité sur Instagram, puisque c'est à l'encontre du règle de communauté de Meta Business. Et donc, en fait, sa seule porte d'entrée vers le web marketing, ça va être les influenceuses. Donc, je pense qu'il y a déjà eu, d'une part, ce premier glissement. Et donc, du coup, très logiquement, les marques se disent « Ok, qu'est-ce qui marche sur les réseaux sociaux ? Et il se trouve qu'en ce moment, ce qui marche, c'est le féminisme. C'est questionnable sur est-ce que ça va durer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 10 dernières années, 5 dernières années, les questions féministes ont été très mainstreamisées. Je pense que un signal fort, ça a été le moment où Beyoncé a marqué féministe derrière elle à un concert. Ça montre que c'est plus un gros mot, là où avant c'était un terme qui était presque péjoratif dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et où là, de plus en plus, on entendait tout le temps « je ne suis pas féministe, je suis humaniste, je ne suis pas féministe, mais non, 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 non. » Et du coup, là, je pense qu'il y a eu un basculement dans la société où le féminisme a pris une certaine ampleur et où il est de bon ton, entre guillemets, d'être féministe, c'est-à-dire d'être contre les violences sexistes et sexuelles, ce qui devrait être de bon ton un peu tout le temps, mais apparemment, il y a quand même une prise de conscience liée à ça, qui a été très influencée notamment par les États-Unis, avec l'arrivée de Trump, la Women's March, etc. Donc en fait, il y a eu un emballement autour des sujets féministes et autour un peu de cette image du girl power, qui du coup va être récupérée à toutes les sauces. C'est-à-dire, tu peux vendre tout et n'importe quoi avec des arguments de girl power, donc par exemple je peux te dire la gourde que t'as là, en fait cette gourde elle te permet d'être autonome et d'être en sécurité dans la rue parce que tu vas pas avoir besoin de demander de l'eau à des gens, et en fait il y a toujours, moi je reçois des mails délirants de marques qui me disent qui me vendent, qui me proposent des partenariats rémunérés pour vendre leurs produits avec un angle féministe où en fait, ça n'a aucun sens. Un sextoy féministe, par exemple. Parce que, en fait, ça te donne le pouvoir de jouir. Okay. Alors que c'est pas ça, en fait, la libération sexuelle. C'est de faire ce qu'on... Enfin, de se libérer des injonctions, justement. C'est certainement pas de donner des injonctions à acheter un sextoy. Et typiquement, mais j'en parle dans mon livre « Féminisme et réseaux sociaux », je raconte un mail que je reçois où on me propose... de faire la promotion de la box de la femme puissante, ça s'appelle. Et dedans, il y a un vibro, du lubrifiant, il y a... Pardon. Et il y a aussi un stimulateur de désir. Donc en fait, ça voudrait dire que c'est un truc pour, quand t'as pas envie de baiser, avoir envie de baiser. Enfin, tu vois, genre, on est à l'antipode de ce qu'on peut appeler femme puissante, en fait. C'est... Un mix d'injonctions, mais qui a été vendu dans la manière dont ça a été marketé, dans le wording que les équipes de marketing utilisent, c'est vendu comme un produit d'émancipation de la femme, enfin des femmes. Et du coup, déjà, d'une part, ça, tu vois très vite que les marques n'ont pas du tout compris. Le principe est qu'en fait, elles essayent de... Voilà, elles essayent d'aller grappiller des éléments de langage et une rhétorique sans comprendre du tout le sujet en profondeur. Et d'autre part, ça montre aussi que les intentions sont pas les bonnes et que donc le jour où ça sera autre chose qui sera à la mode, les droits des femmes et des minorités de genre vont passer à la trappe.
Et puis on peut se parler, en fait, il y a deux marques, entre autres, auxquelles je pense, mais bon, qui sont très connues, donc du coup, je me permets. Il y a Nike et Victoria's Secret, donc deux cas différents. Nike qui se positionne depuis un moment sur le féminisme, mais en fait, les trucs sont faits par des femmes, beaucoup de
Ouïghours, par ailleurs, oui.
Voilà, qui sont payés, c'est limite de l'esclavagisme. Donc en Chine, et donc il n'y a aucun respect des droits des femmes dans la manière de faire, donc du coup il n'y a aucun alignement, et pourtant ils se positionnent, donc il y a cette idée-là, et puis de l'autre, Victoria's Secret, qui donc, c'est la marque à laquelle je faisais référence un petit peu avant, qui a été positionnée pendant des années sur l'hypersexualisation du corps des femmes, une norme, tu vois, qu'ils ont imposée avec les anges, etc., etc. Et puis d'un coup, qu'ils se sont dit, non, mais en fait, ça marche plus très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner sur le féminisme. Bon, ça n'a pas marché, en l'occurrence.
Mais c'est parce qu'en fait, d'une part, ils se sont positionnés beaucoup trop tard, et d'autre part, ils se sont positionnés parce que leur chute était en baisse constante, c'est-à-dire, en fait, leur vente, était en chute et en baisse constante, et... Mais Nike, c'est intéressant parce que tu vois, Nike, la stratégie adoptée par Nike, elle est en effet de se positionner comme une marque qui permet l'empowerment et des femmes et, et des personnes racisées. Enfin, il y a un peu cette image comme ça.
Bien sûr.
Et donc, tout leur investissement, il va être là-dedans. C'est-à-dire, il va être dans... ils vont dépenser des millions, je ne sais pas combien ils dépensent pour avoir des Serena Williams, des athlètes comme ça. Et derrière, ils vont tout économiser du côté de leur méthode de fabrication. Et en fait, c'est une manière de nettoyer l'image parce qu'en fait, le message est tellement contradictoire avec les manières de fabrication qu'au final, ce qui s'imprime sur nous... Alors après, ça dépend de ce qu'on suit. Tu vois, moi, typiquement, Nike, c'est marrant parce que moi, ça fait des années que j'achète plus chez Nike, mais j'ai encore des trucs Nike. Et je n'arrive pas à les porter parce qu'en fait, ça me dégoûte. Enfin, je vois la marque, ça me dégoûte. Quand je vois la marque, ça me fait penser Ouïghour. Donc, j'arrive pas à...
À décrocher, bah, sans mal.
Oui, je vois plus que ça maintenant. Mais parce que je suis énormément de comptes militants, etc. Et que du coup, c'est ça qui a été associé pour moi avec le logo de la virgule. Là où, pour la plupart des personnes, du coup... Tu vas peut-être avoir entendu parler du fait que Nike fait produire ses chaussures et ses produits par des Ouïghours, mais tu vas plus avoir Serena Williams dans la tête. Quand on te dit Nike, tu penses plus Serena Williams parce que ça a été matraqué, que toutes tes idoles portent des Nike, que... les pubs sont fortes. Enfin, en fait, c'est un budget incroyable qui est dépensé pour te faire oublier le fait que la tu réalité, participes à tout un réseau d'esclavage.
En fait, c'est étonnant parce que, en fait, même, enfin, pas même moi, mais disons que tu vois, il y a une question à se poser. Tu fais, est-ce qu'ils font avancer la cause ou pas vraiment? En fait, il y a une question au fond qui est, est-ce que, tu vois, quand ils font Nike She Runs, donc cette course de 10 km exclusivement pour les femmes, ou ils font cette campagne, où ils permettaient aux femmes de courir entre elles, tu vois, où ils ont créé des outils pour que les femmes en Occident courent entre elles, pour qu'elles puissent courir le soir en particulier parce qu'elles avaient peur. Tu vois, donc ils ont fait des trucs dans ce sens-là, de la com, mais pas que de la com, parce que du coup, ça avait une réalité physique aussi. Et dans le même temps, tu vois, ça fait penser...
Non, pour moi, il y a une limite. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le Made in China et le fait que ça soit produit par des Ouïghours, c'est déjà pas la même chose. Et pour moi, les Ouïghours, c'est une limite que tu peux pas franchir.
On est d'accord.
C'est infranchissable, c'est injustifiable. Enfin, on parle de crime contre l'humanité. Donc, en fait, participer à un crime contre l'humanité, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est un crime contre l'humanité. Donc, en fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent donner même des milliards d'euros à la Fondation des femmes, que ça rattraperait pas le fait que ça serait beaucoup plus. Il y aurait beaucoup plus d'impact au fait de faire changer les productions, les conditions de production et les personnes qui produisent à. Tous les chirons qu'ils peuvent faire et toutes les pubs avec Serena Williams qu'ils peuvent faire. Serena Williams, qui est mon idole hein, par ailleurs, mais où en fait, pour moi, c'est une limite qui n'est pas entendable.
Je dis juste que les Ouïghours, le fait que tu dises que c'est un crime contre l'humanité, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides de ça, c'est que ça a été annoncé, enfin en tout cas...
Oui, bien sûr, par l'ONU.
Par l'ONU, au moment où on enregistre, en tout cas, c'était il y a une semaine ou deux. Donc, ça a créé un tollé énorme, d'ailleurs. Mais donc, c'est défini aujourd'hui par l'ONU. C'est pas une vue de l'esprit, quoi.
Non, ce sont des faits.
C'est ça, ce sont des faits. Donc, les marques... Qu'est-ce que tu penses... Donc, du coup, jusqu'où on peut aller... Parce que, alors, il y a différentes choses. Nike, je pense que c'est un cas extrême... de non-alignement. Mais après, il y a des marques qui ne sont pas très alignées non plus. Il y a quasiment... Enfin, en fait, je vois pas trop beaucoup de marques de sous-vêtements, en tout cas, qui ne se sont pas positionnées sur le sujet. La réalité à l'intérieur, c'est-à-dire l'égalité des salaires, ou en tout cas, une forme d'équité entre hommes et femmes.
La manière dont sont traités les mannequins aussi.
Voilà, la manière dont sont traités les mannequins qui sont choisis. Mais est-ce que, par exemple... tu vas parler des mannequins. Est-ce que tu trouves que Autant Dove, tu vois, ils l'ont fait très tôt, donc on peut se dire... Dove, ils ont beaucoup actionné dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que tu penses de cette marque, mais de l'autre côté, je pense à d'autres marques qui se sont mis un peu tard sur le sujet et qui, tu vois, qui... Enfin, moi, j'ai l'impression, en particulier sur les Noirs ou sur les personnes de couleur de manière générale, qui d'un coup se sont mis à mettre un Noir, un Arabe, un Asiatique, tu vois... Comme ça, tu vois, histoire de dire, tiens, bon, on en glisse un quand même. Histoire que de dire qu'on est dans la diversité. Mais en fait, tu vois bien que c'est genre... c'est chelou, ouais, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
En fait, mon avis est assez mitigé parce que à la fois, j'ai envie de les insulter, donc j'ai pas à le faire. Mais à la fois, je pense aussi que les publicités... En fait, le problème, c'est le capitalisme. Donc, en soi, on aimerait juste que plus avoir de publicité. Mais à partir du moment où tu as des publicités, les publicités, elles t'envoient... Je sais plus combien j'avais lu qu'on en absorbait par jour, mais c'est on énorme. En voit énormément. Des centaines, voire des milliers de pubs par jour. Et donc, ça imprègne nos imaginaires et ça imprègne aussi notre... manière d'être, de la même manière que la culture du viol a façonné nos manières de séduire et de relationner avec des personnes.
Ouais, de se comporter, ouais, bien sûr.
De la même manière, les pubs influent aussi là-dessus. Et donc, je me dis, tant qu'à devoir se taper des pubs, moi, je préfère en effet me taper des pubs dans lesquelles je vais voir des corps différents, dans lesquelles je vais avoir... de la diversité dans les orientations sexuelles, dans les personnes qui sont représentées, dans les situations qu'on présente, plutôt que quelque chose de très normé comme il y a 20 ans. Donc en fait, je pense que c'est important que le monde de la publicité évolue. C'est juste que je pense aussi que c'est important d'essayer d'aller comprendre les enjeux auxquels on essaye de s'attaquer quand on est une marque. Et qu'on essaye d'aller révolutionner l'industrie de manière profonde et pas simplement juste en mettant un Noir et un Arabe sur ta pub. Ou en mettant, je sais pas, autant de meufs que de... Parce que là, je vois sur... J'ai vu des trucs comme Betts Click ou des trucs comme ça qui étaient avant très masculins. Maintenant, ils montrent que les filles aussi, elles peuvent faire des paris sportifs. Mais moi, je trouve ça cool. Juste, la question, c'est... Jusque où, en fait, tu vas au sein de ton entreprise pour essayer d'appliquer une politique qui est la moins discriminante possible.
Bah d'ailleurs, on le voit dans le secteur de la beauté. Hein. Typiquement, quand tu vas dans les bureaux, c'est beaucoup de femmes blanches. Enfin,
ouais, ça ne m'étonne pas.
Après, je ne dis pas que c'est forcément facile de retrouver, tu vois.
En fait, je veux dire, même dans les rédactions, hein, on ne va pas se mentir. Enfin, en fait, dans les rédactions, il y a très peu de personnes racisées. Sauf quelques médias spécifiques, mais en fait, de manière générale, il y a plein de domaines qui sont complètement gatekeepés par les blancs.
Clairement. Ça fait penser à Lauriane, mais je ne suis pas sûr que c'est Lauriane. Mais...
J'aime beaucoup.
Une autre question quand on parle de la monétisation du féminisme. Donc là, on a vu les marques, mais il y a après quelque chose qui a un phénomène que j'ai trouvé intéressant, qui est la monétisation des comptes féministes. Donc, toi, t'as créé un compte féministe. On va y revenir, mais il y en a quand même plusieurs. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on reproche à ces comptes-là de se monétiser. Et j'ai en tête Jouissance Club, mais en réalité, il y en a plein qui se sont fait... allumées, entre guillemets, par leur communauté quand elles ont commencé à gagner de l'argent avec leur compte, en particulier, je pense, à June, donc ce genre de Jouissance Club, avec son livre. Et c'est très étonnant parce que j'ai la sensation que dès que tu fais quelque chose qui va dans le bon sens, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur le féminisme ou un autre sujet, ce que moi, je considère être dans le bon sens, hein, attention, je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais du coup, tu n'as plus le droit de gagner de l'argent. Ou en tout cas, on te reproche de gagner de l'argent avec.
Ouais, je pense que c'est ça dépend vraiment des communautés. Et je pense que généralement, ça reste quand même une minorité de personnes. C'est-à-dire, je pense que June, que je connais bien, que j'aime beaucoup, elle a eu l'impression de se faire allumer, mais qu'en réalité, c'est une minorité des gens de sa communauté qui ont mal réagi au moment où elle a commencé à vendre son livre ou à faire des partenariats rémunérés. Puisque moi, ce que j'observe, c'est aussi beaucoup de personnes qui comprennent très bien le fait qu'au bout d'un moment, le compte Instagram, à partir du moment où il est suivi par énormément de personnes, prend beaucoup de temps à la personne qui est derrière le compte et que du coup, forcément, au bout d'un moment, il faut trouver un moyen de se rémunérer. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des personnes, tu vois, donc, il y a maintenant 3-4 ans, j'ai commencé à étudier ces comptes sexo et féministes sur Instagram de près, dans le cadre d'un mémoire qui est devenu un livre. Mais à la base, c'était vraiment une envie d'essayer de mieux comprendre ce terrain-là. Et en fait, c'est drôle parce qu'on observe que tous ces comptes-là, ils sont apparus à peu près en même temps, c'est-à-dire entre 2017 et 2018, qu'il y a eu une explosion en 2018, que les comptes ont décollé. Et en fait, à partir du moment où les comptes décollent, il y a deux teams. Tu as la team des personnes qui vont devoir lâcher le bébé parce qu'elles n'arrivent plus à suivre le rythme et qu'elles ont un travail à côté et qu'en fait, c'est pas possible. Et tu as la team de celles qui lâchent leur travail ou qui lâchent les activités qu'elles avaient auparavant et qui décident de s'investir à fond dans leur compte et donc de trouver un modèle économique. Et le modèle économique peut être nombreux. Typiquement, Jouissance Club, elle n'a pas fait, il me semble, énormément de partenariats rémunérés. En revanche, elle a fait un livre qui était un best-seller. Donc ça lui a permis de continuer à faire ce qu'elle faisait. Elle s'est d'ailleurs brûlé les ailes au passage parce qu'en fait, je pense qu'elle elle a eu du mal à supporter toute la pression et la violence qui émane des réseaux sociaux, sachant qu'en plus, elle s'est pris et de la violence d'abonnés, disons, et de la violence de personnes qui ne sont pas abonnées, et la violence d'Instagram tout court. Donc ça, je pense que c'était un peu compliqué, mais je pense que en effet, je pense que là, on comprend de plus en plus la nécessité pour les personnes de gagner leur vie d'une manière ou d'une autre. Après, la question, c'est, en effet, ça pose question de se dire, à partir du moment où ton compte accepte d'être une régie publicitaire pour d'autres marques, est-ce que ton discours va changer ? C'est-à-dire, on le sait, moi c'est pour ça que j'ai drastiquement réduit les partenariats rémunérés, c'est que je me rendais compte qu'ils me renforçaient ma dépendance à l'algorithme d'Instagram, ma dépendance économique, et que donc ça me demandait de produire de plus en plus, et surtout ça me demandait de produire des choses, des contenus qui étaient là pour contenter l'algorithme Instagram, mais qui n'étaient pas forcément ce que moi je voulais dire. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a certains contenus qui marchent mieux que d'autres, etc. Et donc en fait, la question c'est, est-ce que c'est Léa, je pense, qui pose la question de Merci Beaucoup, qui pose la question dans mon livre, où elle dit, je sais plus ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire le contenu qui, moi, me plaît, ou est-ce que je dois faire le contenu qui contente l'algorithme ? Et c'est là que ça devient compliqué, et c'est là que je pense que ça explique aussi beaucoup l'appauvrissement de manière globale des contenus sur Instagram ces derniers mois.
Et puis surtout, comment tu choisis les marques ? Parce qu'en fait, il y a des campagnes, enfin, pour revenir au sujet qu'on a traité juste avant, il y a des marques qui ont des campagnes féministes, mais qui ne le sont pas du tout dans la réalité. Mais toi, tu ne vas pas faire une enquête pour ça. Enfin, il y a des marques comme Nike où c'est tellement évident que bon, c'est très facile et tout le monde le sait, si tu as envie de le savoir. En tout cas, c'est facile de le savoir. Il y a des marques pour lesquelles c'est plus compliqué, en fait.
Les critères de sélection ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je pense qu'il y a certaines marques sur lesquelles c'est assez clair. Enfin, et après, on n'est pas tous pareils. Donc, il y a des marques sur lesquelles certaines vont accepter, certaines ne vont pas accepter. Là où il y a consensus, souvent, c'est des marques comme Procter & Gamble. Donc, comment ça s'appelle ? Les tampons.
Ah non. Nana. Je ne sais pas, je suis pas un grand expert du tampon.
T'as Nana et t'as surtout les Tampax. Bah, Tampax.
qui est une marque, effectivement.
Qui est une marque, en fait. Qui pendant très longtemps a refusé de dévoiler les composantes de ces tampons. On s'est rendu compte qu'il y avait du chlore, on s'est rendu compte qu'il y avait des pesticides, et donc ça a été l'objet d'une grosse lutte de plusieurs années. Et donc du coup, typiquement, ça, je sais que moi je connais aucune personne dans le milieu féministe, sexo, etc., qui accepterait un partenariat avec Tampax. Après, je pense que ça va beaucoup dépendre en fonction d'une personne à l'autre. Moi, je sais que mes critères, c'est déjà de... Je préfère une marque de sextoy qui vient et qui me dit « Mon sextoy, il est super, regarde ce qu'il fait, il vibre, il fait ça, il a telle et telle fonction. » Plutôt qu'une marque qui me dit « Je t'offre le coffret de la femme puissante, t'as le vibro de la femme puissante. » Donc ça, pour moi, c'est déjà un non. Je préfère vendre des sextoys juste parce que c'est des sextoys. Donc ça, c'est un non. Après, t'as la question de l'utilité du produit. Donc typiquement, généralement, tout ce qui est culotte de règles, etc. Pour moi, si c'est une marque que j'ai testée et approuvée, je vais dire oui. Et après, moi, c'est pas tant le type de marque que la fréquence. Moi, ce qui m'importe, c'est plus la fréquence à laquelle ça va être fait et la non-multiplication des marques. C'est un peu ça que j'essaye de faire en ce moment. C'est sur ça que j'essaye de travailler, c'est-à-dire de dire « Ok, bah là, je vais travailler avec telle marque sur le long cours. » Et donc, du coup, l'idée, c'est genre, on essaye de construire quelque chose et je suis pas là pour vendre. Je suis pas là pour faire du téléachat, en fait. Je suis là pour proposer quelque chose. Donc, si tu veux financer un projet que j'ai ou si tu veux financer, je sais pas, si tu veux qu'on crée ensemble du contenu pédagogique, viens, on y va. Mais par contre, je veux plus faire le truc de... je te montre tel truc, ça marche comme ça, etc. Pour moi, c'est devenu trop malsain et surtout, c'est plus épanouissant. Mais après, je pense que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. C'est-à-dire, il y a aussi la question de... Parce qu'on sait que quand tu monétises les partenariats rémunérés, ils sont le coût de ces partenariats va dépendre de ton nombre d'abonnés, de ton taux d'engagement, etc. Donc, Clit Révolution, il y a plus de 120 000 abonnés. Donc, en fait, j'ai plus d'offres. C'est-à-dire, en fait, d'une part, ça vaut plus cher. Donc, en fait, je peux me permettre de faire comme j'ai fait cette année, c'est-à-dire deux partenariats rémunérés dans l'année. Et après, derrière, multiplier mes sources de revenus. J'ai un podcast, j'ai des articles, j'ai des livres qui sortent, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire en fait, il y a aussi la question de. Il y a énormément de personnes qui sont rentrées sur les réseaux sociaux à un moment, elles étaient assez jeunes pendant leurs études, où au final, elles n'ont pas encore de métier, ces filles-là. Et donc, leur métier, c'est Instagram. Elles n'ont pas elles sont pas journalistes ou réalisatrices, elles n'ont pas d'autres projets qui ne soient pas leur compte Instagram. Et ça se comprend aussi parce qu'en fait, c'est quelque chose qui te happe et qui prend beaucoup de temps, etc. Et donc, pas tout le monde peut se permettre, au final, de faire des choix aussi...
drastiques.
Ouais, aussi drastiques ou aussi intransigeants, même si je suis encore très flexible. Je suis loin d'être au niveau auquel j'aimerais être d'intransigeance.
Et quand tu parlais de serviettes hygiéniques ou de tampons, ça m'a fait penser à My Better Self. Je me souviens qu'elle avait fait une campagne... où il y avait des... Alors, je sais plus si c'était des serviettes hygiéniques ou des tampons.
Elle s'en était pris plein la gueule, mais parce que je pense qu'elle n'était même pas au courant de tout ce qui se passait autour de Tampax. C'est qu'en fait, elle voulait vraiment...
Ouais, parce qu'ils offraient des tampons.
Faire une bonne action, mais qu'elle ne maîtrisait pas du tout le sujet. Je crois que c'était une campagne contre... La précarité menstruelle. Mais en fait, je pense qu'elle ne maîtrisait ni le sujet de la précarité menstruelle, ni... les tenants et aboutissants liés à Procter & Gamble et du coup, c'est vrai qu'elle s'en était pris plein la gueule.
Et c'est marrant parce que chez Procter, t'as Dove. Je crois que de mémoire, Dove, c'est Procter, non ? Je sais plus très bien.
Je sais pas, tu m'apprends.
je sais plus si c'est Procter ou... Enfin, moi, il y a deux grands groupes. Mais je crois que c'est le même groupe. Et c'est étonnant de... Ou Axe, en tout cas. Axe et Dove, c'est la même boîte. C'est toujours étonnant de voir... Et c'est là où tu te dis, waouh, tu vois, pour revenir au premier sujet, c'est vraiment des boîtes très marketées parce qu'au final...
Mais tu vois, quand tu parles de marketing, ce qui est drôle, c'est que, je sais pas si tu te souviens, je me souviens que, parce que j'avais sorti une enquête que j'avais co-signée dans l'IB sur la législation des tampons. Et je me souviens qu'à l'époque, t'avais une meuf qui avait lancé une pétition adressée à Tampax pour demander à ce qu'on puisse connaître la composante de leurs tampons. Et t'avais plein d'expériences, en fait, où elle montrait qu'elle mettait le tampon dans l'eau, dans un verre d'eau, et en fait, elle montrait les particules qui sortaient. Détaché. Et donc, en disant, bah, en fait, si ça fait ça dans un verre d'eau, ça fait quoi dans vos vagins, en fait. Et c'est marrant, parce que là, cet été, j'ai regardé la télé, parce que j'ai pas la télé chez moi, mais du coup, cet été, j'ai pu regarder la télé, et j'ai vu que la nouvelle pub de Tampax, c'est quoi ? Donc, c'est des Tampax bio, et c'est une meuf qui dit moi, je regarde tout ce qu'il y a dans mon assiette, alors vous imaginez bien que ce qu'il y a dans mon tampon, ça m'importe beaucoup. Et elle met son tampon dans un verre d'eau, je te jure.
Wow.
En fait, ils ont repris le truc des personnes anti-Tampax pour dire nos Tampax sont safe. Regardez, on l'a mis dans un verre d'eau.
Mmh.
Après avoir passé des années à pas vouloir dire quelles étaient les composantes des tampons.
Mmh.
C'est incroyable, non ?
C'est fou.
Mais du coup, ça montre bien que ça reprend. Et une autre pub comme ça que j'ai vue, c'était une pub. Parce que tu sais, il y a tout le lobby de l'hygiène intime qui... cherche à te vendre des savons pour chatte. Mmh. Sauf qu'en fait, il ne faut pas nettoyer ton vagin avec du savon, car ça déséquilibre ta flore vaginale, et que du coup, c'est là que tu as des infections et des mycoses, et que du coup, c'est là que ça sent mauvais, et que tu vas racheter du savon, la boucle est bouclée. Et en fait, là, j'ai vu à la télé, c'était quoi ? C'était une meuf qui est devant sa télé et t'as quelqu'un qui dit « Ah non, mais il faut surtout pas mettre de savon. » Puis après, elle regarde et puis il y a quelqu'un qui dit « Fou, non, non, etc. » Et bref, la conclusion, c'est on vous dit, on entend vraiment tout et n'importe quoi sur l'hygiène intime. Il faut se laver, non, non, tous les jours. Et en fait, qui débunk le débunkage féministe. C'est fou,
ah,
hein.
Ah, c'est fou.
Et qui vont aller reprendre ce truc-là en se disant « Ok, la contre-attaque, c'est on reprend, on arrête d'ignorer et on vous dit que en fait nous on sait et qu'en fait il faut que tu te laves la chatte avec du savon. Ne fais pas ça,
idéalement du savon spécifique.
Comment ?
Idéalement du savon spécifique pour eux, en tout cas.
Oui, en plus du savon spécifique, etc. Alors qu'en fait, oui, évidemment, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se laver la chatte, lavez-vous la chatte, mais ne mettez pas du savon dans vos vagins,
c'est ça, pas à l'intérieur, quoi.
Ouais.
Quand on parle, on est reparti sur les marques, mais quand on parle de monétisation du féminisme, donc il y a les marques, il y a la monétisation des comptes féministes, et puis il y a aussi, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, et tu peux ne pas être d'accord évidemment, j'ai l'impression que il y a un certain nombre de femmes qui utilisent le féminisme comme une posture, mais qu'en fait, en vrai, elles sont pas dans la sororité, elles sont pas vraiment là-dedans, quoi.
Oui, mais enfin, de fait, puisqu'il y a un certain nombre de femmes qui sont capitalistes, il y a forcément un certain nombre de femmes qui vont capitaliser sur cet angle-là. Sauf qu'en fait, moi, je trouve que généralement, ça se voit tout de suite.
Moi, j'ai des exemples en tête où c'est pas le cas.
Je vois plein de trucs de groupes d'entrepreneuses qui va vachement jouer d'un truc un peu girl boss, ce truc-là. Pour moi, c'est assez évident que c'est en contradiction, mais après, peut-être parce que je suis peut-être plus politisée et que du coup, les discours sont contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont... Le principe même de beaucoup d'entreprises, c'est quand même de te vendre des trucs.
Oui.
Tu vois ? Donc, à partir du moment où on te vend des trucs, généralement, pour te vendre des trucs, on te fait croire que tu en as besoin. C'est ça, moi, mon problème.
Par définition.
C'est la création du besoin. J'ai pas de problème. Si t'es une entreprise et tu dis, j'ai ça, c'est cool, si jamais tu veux, c'est là, tu vois. Mais c'est pas tout à fait ça. Et en fait, les méthodes pour te créer des besoins sont généralement aussi des méthodes dans lesquelles on va te créer des injonctions. Typiquement, les savons de chatte, te dire ta chatte, elle est vraiment hyper sale si tu te laves pas la chatte avec notre savon spécifique. Ça va te créer aussi des complexes, c'est-à-dire on va te vendre de la crème en tirée dès l'âge de 25 ans. Ça va te créer... En fait, ça fait en sorte de créer tout un tas d'injonctions et de complexes qui vont te pousser à acheter le produit. En fait, ça te crée des problèmes pour que, du coup, le produit soit la solution et que, du coup, t'achètes le produit. Et du coup, je trouve que la plupart des entreprises... fonctionne avec cette dynamique. Alors, il y en a certains qui essayent de pas faire ça et qui... Tu vois, moi, il y a des marques dont je kiffe trop la com, justement, parce que c'est une com de dire pas besoin d'acheter tout. Tu peux choisir, notamment, par exemple, dans le textile. Moi, j'aime beaucoup la communication de Patine Paris. Je sais pas si tu vois, c'est une marque de vêtements. Et elles font très peu de pièces à chaque saison. Il y a vraiment très peu de pièces. Et puis, genre, chaque saison, elles vont se dire, OK, bah, on va faire une nouvelle couleur de ce t-shirt. Mais en fait, c'est le t-shirt. Et c'est pas un t-shirt avec une coupe différente toutes les 5 secondes. Et ça, c'est des communications que je trouve hyper intelligentes. Alors, je sais pas comment fonctionne leur modèle économique. Mais en tout cas, je me dis, bah, peut-être que le fait qu'elles fassent quelque chose à une plus petite échelle, parce qu'elles doivent être moins nombreuses, et puis du coup, elles font des séries limitées, mais ça les suffit, ça leur suffit, en fait, à fonctionner. Je me dis, peut-être que là, on pourrait se dire, OK, là, il y a une démarche plus féministe, d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est plus féministe, écologique, plus éco-responsable, plus raisonné.
En fait, elles sont pas dans la maximisation du profit. C'est marrant comme tu fais le lien. Bon, c'était pas ma question, hein, cela dit. Parce que ma question, c'était sur les femmes qui profitent du féminisme pour leur personal branding. Mais c'est intéressant.
Ouais, mais ça va ensemble.
Comment tu fais le lien entre l'écologie. Enfin, du coup, on peut aller sur.
Mais pour moi, en fait, c'est tout est lié. C'est-à-dire, le capitalisme, l'écologie, enfin, l'anticapitalisme, l'écologie, le féminisme, c'est lié parce que
oui, ça va ensemble, bien sûr.
Le capitalisme. Enfin. Je veux dire, quand t'es féministe, tu luttes quand même contre les injonctions et c'est le capitalisme qui te crée ces injonctions. Donc en fait, ça se rapproche d'une manière ou d'une autre. Et pareil, de la même manière que le capitalisme te pousse à acheter de plus en plus.
Bien sûr.
Donc, être dans une démarche qui va à l'encontre de ça, c'est forcément être dans une démarche qui est plus éco-responsable.
Par définition.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que j'ai fait un lien peut-être un peu rapide.
Non.
Mais c'est vrai que c'est des choses qui me trottent... dans la tête depuis un certain temps et où je me dis, tu vois là par exemple, je lance un ciné-club et je voulais faire du merch. Du merchandising. Et je voulais faire des t-shirts et en fait, j'arrive pas à les faire parce que je me dis, mais on a trop de textiles, faut arrêter. Donc du coup là, je me suis dit, bah ok, j'attends, c'est pas grave, peut-être je pourrais trouver des meufs qui font de l'upcycling. Mais tu vois, je pense que c'est des réflexions qui sont importantes à avoir et en effet... C'est pour ça que je te dis, pour moi, ces meufs-là, ça se voit tout de suite qu'elles ne sont pas dans cette démarche-là.
Ouais, je comprends.
Parce qu'elles ont tout de suite un discours de consommer plus, de... Je sais pas, je trouve leur discours est hyper stéréotypé et j'ai l'impression d'entendre ce discours depuis 20 ans. Donc ça me... J'ai pas l'impression que juste au motif qu'elles soient femmes, mais de la même manière que t'as des mecs comme ça. D'ailleurs, il y a plus mecs comme ça que de meufs comme ça. Mais parce qu'il y a plus de mecs entrepreneurs de manière générale, bref. Mais tu vois, je pense qu'il y a un... peut-être qu'il y a quelques personnes qui sont dupes, mais en tout cas, quand poses des questions féministes et que c'est dans des questionnements féministes, personne n'est dupe.
Moi, j'en connais quelques... Enfin, je vais pas faire de name dropping ou quoi, mais j'ai quand même 3-4 exemples en tête.
Tu donneras les noms après.
Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était sur les différentes formes de féminisme. Et on voit... on en parlait aussi juste avant, parfois des dérives. Moi, je connais plein de femmes qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le féminisme un peu extrême, etc. C'est hyper intéressant de voir qu'en fait, d'un mouvement, on a eu plein de micro-mouvements à l'intérieur, et surtout parfois des batailles entre eux. C'est-à-dire que de se dire « Non, mais c'est moi qui ai raison, ou c'est moi qui suis plus féministe, etc. etc. » Comment toi, tu vois ça ? L'évolution.
En fait, pour moi, les féministes, c'est vraiment un chemin. C'est-à-dire, t'as une porte qui s'ouvre. Généralement, ça va être une expérience que tu vis ou quelqu'un qui mène une action que tu vois et qui va t'ouvrir les yeux. Ou il se passe quelque chose qui fait que t'as une porte qui s'ouvre. Donc, on rentre pas tous et toutes par la même porte. Et de là va arriver tout un cheminement. Sur lequel tu vas déconstruire plein de choses. C'est-à-dire, moi, je me souviens... Et généralement, je trouve ça peut enclencher une certaine colère qui peut être très difficile, d'ailleurs, à gérer les premières années. Je pense que toutes les meufs, je vois, ça fait ça. C'est-à-dire, en fait, elles deviennent féministes et elles ont quelques mois où elles sont vraiment très en colère et où elles ont du mal à savoir que faire de leur colère. Et puis après, généralement, elles arrivent à trouver que faire de leur colère et du coup, elles vont concentrer leur colère dans un mode d'action ou dans d'autres choses. Enfin, elles trouvent le passage à l'acte, disons, te permet de mieux gérer ta colère. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en colère, mais juste qu'il ne faut pas qu'elle te ronge. Et du coup, pour moi, ça passe vraiment par plein de discussion, de lecture, etc., où en fait, tu vas continuellement remettre en cause l'ordre établi, remettre en cause des choses. C'est ce que je te disais avant qu'on enregistre, où je te disais, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand tu commences à t'intéresser au féminisme et à adhérer à des questionnements féministes, tu te rends compte que c'est dans chaque parcelle de ta vie. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi bien... ça va être aussi bien dans... tu t'es là genre, en fait, le patriarcat, c'est aussi le fait que quand je rentre chez moi, j'ai peur ou que je vais prendre tel chemin qui est un peu plus long, mais pour pas passer devant là, parce que là, il y a des mecs. Mais c'est aussi bien ça que, je sais pas, les cuisines et les aspirateurs, ils sont à taille basse parce que c'est les femmes qui sont supposées passer l'aspirateur et cuisiner. Mmh. Et donc, du coup, tu vois tout avec la lunette du féminisme et tout dans les moindres détails te pousse à te dire, mais en fait, on est en train de me ken. Enfin, en fait, je suis en train de me faire banane. Et donc, forcément que t'es en colère. Forcément que t'es en colère. Alors après, derrière, tu vas avoir plein d'analyses, en effet. Il y a plein de... Parce que les féministes, c'est pas... c'est pas une religion, en fait. Donc, il y a... Enfin, d'ailleurs, même dans les religions, il y a plein de types de...
De variantes.
De variantes différentes. Mais du coup, je pense que comme on passe pas toutes par les mêmes cheminements, on va pas avoir les mêmes raisonnements. Et donc... il va y avoir des scissions sur certains points qui peuvent frictionner, mais qui ont frictionné de tout temps, de la même manière que personne n'est capable de s'entendre à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de raison que nous, on s'entende mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frictions, mais moi, ce qui me perturbe plus, c'est le fait de voir un glissement vers l'extrême droite de toute une partie de filles qui étaient un peu des figures de féminisme populaire, quoi. Et ça, c'est un truc qui me questionne beaucoup. Mais après, je pense que quand tu disais, il y a plein de personnes qui se sentent éloignées du féminisme, je pense aussi que c'est lié au fait que parfois, on a l'impression que le féminisme, c'est une seule et même chose. Et tu vois, là, depuis tout à l'heure, je dis le féminisme, alors qu'en fait, c'est les féminismes. Les féminismes sont pluriels. Et donc, tu vas avoir des féminismes qui s'intéressent à différentes questions. Tu vas avoir, tu vas avoir l'afroféminisme, tu vas avoir le féminisme, universaliste, tu vas avoir le féminisme intersectionnel, tu vas avoir le féminisme anticarcéral. Et donc, du coup, je pense que c'est à chacune de trouver quelle est sa place et quelles sont les choses qui l'intéressent. Et peut-être que je sais pas, peut-être que ton amie, elle s'intéresse beaucoup à... J'en sais rien, moi. À l'entrepreneuriat et que du coup, ce qui va l'intéresser, c'est pas forcément le féminisme anticapitaliste. Ou peut-être qu'au contraire, c'est ça qui va commencer à l'intéresser et que ça va re-questionner sa manière d'envisager son entreprise, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est juste... Le féminisme, c'est tout simplement une remise en cause de l'ordre établi et des rapports de pouvoir dans la société.
J'aimerais bien revenir sur cette histoire de glissement vers l'extrême droite parce que moi, je ne l'avais pas vu. J'avais juste vu Zemmour qui disait que c'était le parti qui protégeait... Pardon, ça me fait rire. Le parti qui protégeait le plus les femmes. Tu peux nous expliquer un petit peu ce glissement vers le féminisme, vers l'extrême droite ?
Oui, en fait, c'est un... Alors, il s'opère de... Enfin, j'ai l'impression qu'il s'opère de deux parties différentes. C'est-à-dire, au sein de l'extrême droite... t'as des meufs qui, avec l'avancée du féminisme, etc., ont commencé à se fédérer et à s'autoproclamer féministes. C'est ce qu'on appelle les fémonationalistes. Et donc, elles, leur rhétorique, ça va être de dire la lutte contre les violences faites aux femmes est très importante. Il faut protéger les femmes des violences. Et c'est d'ailleurs le même discours que Zemmour. Et donc, pour ça, le réel danger, c'est l'immigration, c'est l'islam. Donc, pour... protéger les femmes, il faut protéger la France de l'immigration et du grand remplacement, etc. Et de l'autre côté, tu vas avoir une partie des féministes qui se sont cristallisées autour de la question des transidentités et qui ne veulent pas reconnaître l'existence des personnes trans et qui vont donc, d'une certaine manière, en fait, qui considèrent ça comme une maladie, comme une pathologie et qui... on fait un peu de ça leur cause numéro un à défendre, c'est-à-dire se défendre. Alors elle, c'est le grand remplacement des personnes trans qui s'infiltrent dans les milieux féministes. Et donc elle, c'est intéressant parce que les discours transphobes qu'elles ont font que ça va les... ça les a progressivement isolées du reste des cercles féministes de gauche. Ce qui fait qu'elles se sont retrouvées un peu seules et que du coup, elles ont commencé à glisser vers les seules personnes qui les soutenaient, les relayaient, leur tendaient la main, etc., à savoir les féminationalistes d'extrême droite, l'extrême droite. Et du coup, c'est assez... moi, ça me préoccupe énormément parce que je sais que dans les personnes qui suivent certains de ces comptes, c'est des personnes qui, justement, sont en questionnement, qui ont découvert le féminisme il n'y a pas longtemps, etc., et qui se laissent très rapidement séduire par cette rhétorique qui est de dire les femmes n'ont pas de pénis, les hommes n'ont pas de vagin, les hommes ne peuvent pas être enceints. On l'a vu là récemment, je ne sais pas si tu as vu la fiche du planning familial qui montre un homme enceint, donc un homme trans, c'est-à-dire qui est né avec un vagin, un utérus, etc., et qui du coup se retrouve enceint, ce qui sont des situations qui se produisent. Et donc l'idée du planning familial, c'était de rappeler à ces personnes-là quelles étaient les bienvenues au planning familial, que si elles avaient besoin d'avorter, elles pouvaient venir avorter, et que si elles avaient besoin d'avoir un suivi de grossesse, elles pouvaient avoir un suivi de grossesse. Quand on connaît la difficulté des personnes trans à avoir accès à des soins gynécologiques sans être maltraitées, c'est plutôt une bonne chose en fait de la part du planning familial que de cibler cette minorité qui est certes pas la patientèle la plus grande du planning familial, mais qui du coup rappelle à ces personnes là que peu importe ton identité de genre, tu peux venir au planning familial. Si tu es en train de vivre une grossesse, tu peux venir faire ton suivi de grossesse ou ton arrêt de grossesse au planning familial. Par ailleurs, les hommes cis et les personnes qui ont des testicules sont aussi les bienvenus au planning familial, puisque en fait, elles peuvent aussi donner des trucs de contraception masculine. Mais donc, l'idée... il y a eu tout, par exemple, un débat autour de ça qui fragilise le planning familial, alors même que le planning familial aide, de par ailleurs, en majorité des femmes cisgenres.
Bien sûr.
Et par ailleurs, est déjà fragilisé à de nombreuses reprises, de par les positions anti-avortement de l'extrême droite, etc., etc. Et donc, du coup, je trouve que typiquement, tu vois, l'argument de dire « oui, les femmes n'ont pas de pénis », c'est un argument qui est très simple à... Enfin, c'est une rhétorique qui, du coup, paraît logique. Tu vois, si tu te poses pas les questions d'identité de genre, ça te paraît logique, de la même manière que la Manif pour tous avait comme slogan « un papa et une maman ». Bah, ça semble logique, en fait. On disait « un papa et une maman », t'es là « oui, bah oui, bah, en France, un papa et une maman ». Enfin, oui. Et donc, du coup, c'est compliqué parce que c'est un discours qui devient très stigmatisant, surtout très redondant et donc très lourd psychologiquement pour les personnes qui sont concernées et qui va potentiellement radicaliser une partie de la population contre cette minorité qui était déjà bien marginalisée. Et qui va continuer à vivre donc des violences, la violence du rejet, de la l'incompréhension, de la monstrification. Et donc moi je trouve ça hyper, je trouve ça d'une violence inouïe parce qu'en fait autant je peux complètement comprendre le fait qu'on se pose des questions sur l'identité de genre, c'est-à-dire en fait ça veut dire quoi être un homme, ça veut dire quoi être une femme, est-ce qu'on ne devrait pas abolir le genre, etc. Je comprends complètement ces questionnements, ils sont intéressants, mais ce que je comprends pas c'est l'intérêt d'aller stigmatiser des personnes qui vivent déjà des violences, et je trouve que quand t'es féministe en tant que femme, je trouve ça d'une violence encore plus inouïe, mais pour moi c'est aussi absurde que les groupes fémonationalistes qui vont aller stigmatiser les populations racisées au nom du féminisme. Ça, je pense que c'est aussi peut-être une manière d'écraser, enfin, je sais pas, de te retrouver dans une place où tu domines et où du coup tu te sens un peu mieux.
Et bien, pour les personnes qui pensent que c'est pas naturel, pour revenir sur ce livre sur les primates, ça existe aussi chez les primates, donc c'est totalement naturel. C'est pas la majorité des cas, mais comme chez les humains, mais ça existe aussi chez un certain nombre de primates. Il y a des mix de genre, des identités de genre qui sont différentes. Mais tu vois, quand tu parlais de l'extrême droite, ça fait penser à Marine Le Pen, tu vois, pour revenir sur cette histoire de femme qui profite d'être une femme pour se positionner, alors qu'en fait, mais pas du tout. Tu vois, je pense que Marine Le Pen, elle se pose bien là, quoi, typiquement.
Ouais, elle s'est bien positionnée comme la mère de la patrie. Elle, ça l'a servi d'être une femme, puisque elle... Il y a quand même une approche, enfin une tendance à essayer d'adoucir un peu les propos du Front National, puisqu'en fait, ils ont beau avoir changé de nom, au final, ça reste le Front National. Et du coup, bah, le fait d'être une femme, comme ça, il y a un peu le côté... j'ai la force et la véhémence de l'extrême droite, mais je reste une femme, donc je suis là pour vous couver,
la douceur,
vous protéger,
etc.
Ça
est un argument du féminisme, pas du tout. Nickel. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
À qui je veux ouvrir ?
À quoi tu peux dire qui, mais bon, après, plutôt
porte.
Quoi. À moins que tu sois mort dans le name dropping.
À qui je vais Eh bien, je veux claquer la porte aux féministes d'extrême droite.
Pas mal. Tu veux ouvrir ou tu veux juste claquer ?
Non, je la claque.
Nickel. Merci beaucoup, Olivia.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message.